Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Avec nous sur Radio Classique.
Le journal de l'économie. Avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, on plonge dans la tête des patrons étrangers pour comprendre pourquoi la France est à leurs yeux le pays le plus attractif d'Europe. Attention, désynchronisation en cours, les trajectoires des taux d'intérêt directeurs de la Fed et de la BCE ne vont pas tarder à diverger. Et puis question, comment accélérer sur l'éolien en mer sans s'équiper uniquement en matériel chinois ? Dès hier soir sur les réseaux sociaux, le gouvernement criait victoire. La France conserve sa couronne de pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers, selon le baromètre qui fait référence, celui que publie aujourd'hui même EY, 5e année d'affilée au sommet du classement. Bonjour Marc Lhermitte.
Bonjour.
Vous êtes associé chez EY, c'est vous qui réalisez chaque année cette étude. Comme quoi, malgré le climat social, les émeutes de juillet dernier, la difficulté à réformer, puisqu'il n'y a pas de majorité parlementaire, ou encore toutes les normes françaises à l'excès, eh bien, les investisseurs plébiscitent toujours la France. Qu'est-ce qui fait la différence ?
Alors, la différence, elle se fait déjà parce que les réformes en France fonctionnent toujours. Ces réformes qui ont été initiées en 2015-2016, qui ont été accélérées à l'arrivée d'Emmanuel Macron autour de la fiscalité, du marché du travail, elles fonctionnent, elles ont redonné de la confiance et de la possibilité d'investir en France. Deuxièmement, il faut le dire, on bénéficie des déboires de nos deux grands concurrents. Le Brexit touche beaucoup le Royaume-Uni. Et l'Allemagne est prise dans un contexte politique énergétique qui ne favorise pas les investissements. Et puis enfin, un certain nombre de secteurs sont tirés en France par une demande très forte dans la mobilité électrique, dans la santé, dans l'énergie. Et tout ça, ça fait une année assez robuste. Malgré la contraction des investissements, la France reste première destination en Europe.
Alors, parmi ces projets, il y a 530 usines. Et vous parlez carrément de réindustrialisation.
Oui, et c'est la première fois qu'on le fait parce que réindustrialisation, c'est un mot un peu incantatoire. Et en revanche, quand 44% des projets que nous observons sont des projets dans des usines, des extensions principalement, mais aussi des créations de nouvelles usines, pour moitié d'entre elles, c'est intéressant de le noter, dans des petites villes, des villes moyennes, donc là où il y avait besoin de remettre de l'industrie, on peut parler de réindustrialisation. La France en avait besoin. Il faut savoir que les entreprises à capitaux étrangers, c'est un tout petit nombre d'entreprises, c'est un peu moins de 20 000, donc moins de 1%, mais elles pèsent 35% de nos exportations industrielles. Donc elles viennent faire de la production en France pour exporter principalement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour une industrie qui en a besoin.
Marc Lhermitte, ce qui est frappant aussi, c'est l'optimisme des dirigeants que vous avez interrogés sur l'avenir de cette attractivité française.
Oui, c'est très frappant. C'est même un peu surprenant quand on est dans cette chambre d'écho politique, médiatique, ce que chacun voit des problèmes de la France. De l'extérieur, 76% des dirigeants, les trois quarts, nous voient évoluer favorablement dans les trois ans. Alors, ils nous voient évoluer modérément ou significativement. Il y a les très optimistes et puis il y a ceux qui disent finalement la France va seulement améliorer un peu son sort, notamment par rapport à ses concurrents, notamment par rapport à un contexte de croissance qui devrait être un peu plus favorable. Mais vu de l'extérieur, la France séduit encore, alors que de l'intérieur, elle doute un peu plus.
Alors quand même, attention à des signaux faibles que vous pointez, notamment dans les secteurs historiques que sont la chimie et l'agroalimentaire.
Oui, et ces secteurs historiques, d'abord, il ne faut pas les lâcher, il faut les regarder de très près. La chimie, c'est un sujet européen. Le coût de l'énergie en Europe n'est pas compétitif. Donc, ces entreprises qui sont d'ailleurs dans de fortes transformations, restructurations, pour passer d'un modèle économique, d'un modèle industriel à un autre, ont beaucoup moins investi en Europe et en France. L'agroalimentaire, c'est un petit peu différent. C'est un secteur qui a été très touché par la crise du pouvoir d'achat, donc qui a réduit ses marges, donc ses investissements, et qui, par ailleurs, en France, on va le dire, a été souvent l'objet d'un conflit très, très dur, très, très visible, très médiatique avec la grande distribution. Donc, ça a donné un peu moins envie aux sièges sociaux, aux maisons mères de ces groupes agroalimentaires d'investir en France.
Merci beaucoup, Marc Lhermitte, associé chez EY et donc auteur de cette étude qui nous consacre 5e année d'affilée à la France au summum de l'attractivité européenne. Hier, 1er mai, fête du travail, jour férié et chômé en France, mais pas aux États-Unis où les marchés étaient ouverts et où le Conseil de politique monétaire de la Fed s'est tenu. Éric Mauban, la Banque centrale américaine ne touche pas à ses taux directeurs, pas besoin.
Effectivement, une décision justifiée par l'absence de progrès pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. Si depuis le début de l'année, la décrue sur ce front était bien amorcée, le chiffre du mois de mars, 2,7% sur un an, est reparti à la hausse, dissipant tout espoir de baisse des taux. Il va donc falloir se montrer patient pour voir la Réserve fédérale adopter une politique plus clémente dans l'octroi de crédit. Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, s'est toutefois voulu rassurant en rappelant que ce n'était qu'une question de temps. Alors pour une fois, la Banque centrale européenne, elle, devrait prendre les devants. Au vu des chiffres de l'inflation du début de l'année, eh bien l'autorité européenne a quasiment programmé une baisse des taux pour le 6 juin. Par la suite, elle pourrait se montrer plus restrictive dans sa politique monétaire, car en Europe aussi, les dernières données mettent en évidence une résurgence de l'inflation.
Éric Mauban, merci. Les marchés financiers ont réagi modérément. Dow Jones plus 0,23%, Nasdaq moins 0,33%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment quasi stable, moins 0,11%. L'euro vaut 1,0718 $. Le pétrole, le baril de Brent, est à 84 $. La France veut rattraper son retard en matière d'éolien offshore. Deux ministres aujourd'hui à Saint-Nazaire, où a été mis en service le premier parc éolien en mer du pays. Une cinquantaine d'autres installations doivent voir le jour au large de nos côtes. Le potentiel est énorme. Hein. Elle pourrait fournir plus d'un quart de notre production d'électricité en 2050. Encore faut-il multiplier par 5 la puissance actuellement installée. Et puis, autre écueil, la filière craint la concurrence féroce de la Chine. Zoé Pallier.
L'été prochain, 62 éoliennes seront érigées au large de Noirmoutier jusqu'à l'Île-Dieu, mais leurs fondations métalliques viennent de Chine. Les opérateurs cherchent en effet à réduire les coûts de construction pour vendre ensuite une électricité à bas prix, indique Philippe Thieffry de l'association de défense des industriels Bretagne Ocean Power.
Le dernier projet qui a été attribué en France, c'est EDF qui l'a gagné à un prix de l'ordre de 45 euros du mégawattheure, ce qui est extrêmement bas. On se retrouve avec des développeurs obligés de faire des offres de plus en plus basse. Et donc après, pour respecter leurs engagements, ils se retrouvent malheureusement à faire appel à des entreprises en Chine.
Mais c'est avant tout un problème industriel, estime Brigitte Bornemann, directrice du magazine spécialisé Énergie de la mer. En France, on ne sait par exemple pas construire certaines parties de la tour d'une éolienne.
Il manque des compétences, des techniciens, parce qu'on ne les a pas formés. De la même manière qu'on ne les a pas formés pour le nucléaire, parce qu'il y avait un abandon du nucléaire à un moment donné, nous, on a attendu 10 ans pour construire le premier parc en mer pour construire une chaîne de valeur en France.
La filière attend donc du gouvernement, d'une part, qu'il aide les régions à ouvrir des formations, mais aussi qu'il instaure un prix plancher pour le mégawattheure.
Zoé Pallier, hier, l'Allemagne fêtait le premier anniversaire du Deutschland-Ticket. Il s'agit d'un pass de transport illimité, 49 euros par mois pour voyager sur tous les réseaux urbains, métro, bus, tram, mais aussi les trains régionaux. 11 millions d'abonnés à ce stade. C'est tout de même moins que les 16 millions envisagés. Mais cela pose déjà quelques difficultés, explique Patricia Perrenne du cabinet Transmission.
Il y a un gros effet d'aubaine, il a deux conséquences. Donc déjà, plus de gens dans les trains, donc parfois des trains qui sont saturés. Les gens parfois avaient des abonnements plus coûteux initialement. Et donc il y a quand même un manque à gagner pour les régions. Donc là, c'est le lander du Schleswig-Holstein. Ce lander-là, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire le nombre de trains l'année prochaine. Parce que voilà, il y a moins d'argent. Donc ça commence à devenir problématique. Parce que s'il y a plus de gens dans les trains, mais qu'en fait, au final, il y a moins de trains, c'est-à-dire que les gens sont encore plus serrés par train. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, le problème aussi, c'est un problème de financement. Comment on finance cette offre-là ? Compliqué.
Et on rappelle que la France a rêvé de son passerail comme les Allemands, mais l'accord trouvé il y a quelques semaines entre l'État et les régions aboutit à un abonnement réservé uniquement aux jeunes de moins de 27 ans. L'Île-de-France ne participe pas et ce pass est utilisable seulement pour les TER et les Intercités. Il est 6h57 dans un instant.